Conférence privée du noviciat par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 17 décembre 1992.
Je continue sur l'obéissance. T'as donné l'importance de l'obéissance à notre vie et la difficulté qu'il y a pour obéir. Je dirais difficulté très spéciale à notre fin du XXe siècle. Je crois que ceux du début de ce siècle, je me place parmi eux, avaient moins de peine à obéir que vous. Parce que le freudisme a pénétré progressivement. Vous voyez, je vous rappelle cette réaction en 68 de freudiens que je connaissais bien, de médecins psychanalystes freudiens, qui avaient été faire leur tour en Sorbonne pour voir ce qui se passait. Devant. Et ça les avait beaucoup amusés du reste. Parce qu'il était mis liberté, liberté absolue. Voulons que cela. Et puis alors en dessous, sur toutes ces, il y avait des tas de slogans qui étaient écrits. Il était mis en dessous, défense de prendre la photographie. Et alors, ils étaient venus avec leur appareil, ils voulaient prendre la photographie, ils se sont précipités sur eux. J'ai dit, écoutez, vous dites la liberté absolue. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens de dire la liberté absolue. Ils étaient furieux, évidemment. Alors ils ont dit, nous sommes des médecins et des psychanalystes et nous sommes freudiens. Et nous essayons de comprendre un petit peu ce phénomène qui se passe. Et le soir, je les voyais, ils m'ont dit, voyez, c'est terrible. Le freudisme s'est généralisé. Et le freudisme, en se généralisant, aboutit à des choses comme ça. Et ils ont dit à ce moment-là, eux, qui réfléchissaient un peu, c'est de notre faute. On voit très bien. Le freudisme, quand il se généralise, et je ne veux pas dire que quand il est pris en particulier, il est bon. Il y a des erreurs fondamentales dans le freudisme. Ça, c'est évident, toute la conception de l'homme. La méthode freudienne est-elle bonne? Ça, c'est autre chose. Peut-on séparer la méthode et la conception de l'homme? Je ne crois pas. Parce que j'ai vu de très bons catholiques qui disaient freudisme, c'est quand même Freud est un génie qui a importé quelque chose de tout à fait nouveau, on n'avait jamais découvert avant. Pauvre humanité, n'est-ce pas, qui a attendu Freud pour comprendre ce que c'était que le complexe. Je crois que les saints pénétraient beaucoup plus loin dans le cœur de l'homme que Freud. Beaucoup plus loin. Mais c'est plus difficile de devenir un saint que de prendre une méthode. Donc, prendre une méthode et apprendre la méthode freudienne, c'est relativement facile. Devenir un saint, c'est pas commode. Alors, évidemment, croire et arriver tout de suite à quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que la psychologie des profondeurs n'est pas du tout quelque chose de profond. Pas profond, c'est l'instinct. Et l'instinct n'est pas ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Mais eux-mêmes disaient, c'est terrible ce que nous voyons là, parce que pratiquement, c'est la suppression complète de l'autorité. S'il y a suppression de l'autorité, il y a suppression de l'obéissance. Ça, c'est sûr. Regardez, on l'avait vu l'année dernière, pour ceux qui ont suivi le cours l'année dernière, on avait essayé de comprendre à quel moment l'autorité apparaît en philosophie. C'est intéressant, ça, de la naissance de l'autorité en philosophie. À quel moment? moment ça apparaît, pour voir à quel moment l'obéissance apparaît et la vertu d'obéissance peut éclore. Bon, l'obéissance apparaît dès qu'il y a philosophie politique avec la famille, fondement de la politique. La famille implique l'obéissance. L'éducation implique l'obéissance. Pas d'éducation sans autorité et sans obéissance. Or, si Freud voit qu'il faut supprimer et tuer le père parce que il fait plus de mal que de bien, à ce moment-là, il n'y a plus d'autorité au niveau de la famille. Il reste la mère, mais cet autre freudien, qui peut être plus freudien que Freud, comme un royaliste, peut-être plus royaliste que le roi, c'est ce qu'il dit. Il est mort, ce psychanalyste freudien, qui habitait Neuchâtel, et qui voulait supprimer la dépendance à l'égard de la mère, en voyant que ce qui est l'obstacle le plus profond pour un homme, une fille, de garder, d'acquérir l'autonomie, c'est la dépendance à l'égard de la mère. C'est tout ce qu'il gagnait comme psychanalyste pour fonder à Genève un institut qui serait, selon sa conception. Et il avait dit ouvertement qu'il avait lu 10 000 lettres de fiancés et n'avait jamais trouvé l'amour. Et donc l'amour n'existait pas. Mais un freudien radical. D'une certaine manière, c'était intéressant parce qu'il poussait les principes de Freud jusqu'au bout. Et pour Freud, il n'y a pas non plus d'amour. Parce que tout s'explique par la dialectique. Donc il n'y a pas d'amour. Et on voit très bien comment ça aboutit à la suppression de l'autorité, ou plus exactement, de rejeter l'autorité à l'autorité politique. Et l'autorité politique, quand il n'y a pas eu l'autorité familiale, vous savez, ça ne va pas très loin. Et ce qui était arrivé quelques années avant, du reste, c'est eux qui m'ont mis au courant de tout ça, que moi je ne suivais pas ça de vrai. Ce qui était arrivé en Suède, la révolte des enfants. Parce qu'en famille, les parents avaient abdiqué complètement l'autorité. Mais dès que les gosses allaient à l'école et qu'ils devaient suivre le code de la route, de passer les routes, qu'au moment où on indiquait qu'ils pouvaient passer les routes, feu vert, feu rouge, et les endroits où ils passaient, ils passaient comme ils voulaient. Les agents de police usaient de leur autorité. Et Freud n'a rien dit contre les agents de police. Donc les agents de police demeuraient. Alors, il s'est trouvé devant des gosses qui n'avaient jamais obéi, qui avaient toujours fait leur tête. Et premier geste d'obéissance à un agent de police qui dit « Tu n'as pas le droit de descendre là. » Mais au nom de quoi ? Tu n'as pas le droit. C'est la loi. C'est le code de la route. Tu dois passer cet endroit. Ils étaient furieux. Ils s'étaient assemblés. Ils avaient, à ce moment-là, jeté des pierres dans les vitres, dans les magasins, pour montrer leur mécontentement et leur fureur. Et alors ça avait fait du bruit, du reste, à ce moment-là. Et là, c'était la révolte à un étage supérieur. L'autorité du patron, au point de vue scolaire. Donc il n'y a plus possibilité d'enseigner, d'une certaine manière. ça du reste. Ça n'a pas pu se réaliser à Fribourg parce que c'était trop international. Alors à ce moment-là, ça ne marchait pas. Mais c'était manœuvré par en dessous, c'était très net. Bon, alors, s'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'obéissance. Alors, c'est intéressant au point de vue philosophique de se poser la question. Quand l'autorité apparaît-elle en philosophie? Je crois que c'est la famille. C'est le problème de la famille. Le père a autorité. Une autorité naturelle sur ses enfants, puisqu'il doit les éduquer. Il en est responsable. Il doit les éduquer. Donc, vous voyez, la vertu d'obéissance n'est pas une vertu typiquement chrétienne. C'est une vertu naturelle pour l'éducation, l'enseignement. Parce qu'il y a deux espèces d'autorité. Il y a l'autorité à l'égard de l'éducation et l'autorité à l'égard de l'enseignement. Celui qui enseigne, en tant qu'il enseigne, a une autorité. Et c'est très curieux que dans les constitutions dominicaines, donc datant du Moyen Âge, il est dit dans les premières constitutions dominicaines, il est dit que celui qui enseigne a l'autorité pendant qu'il enseigne. Il a la même autorité que le prieur par rapport à la communauté qui enseigne. Et c'est très très joli ça. Parce que ça montre bien les deux aspects de l'autorité. L'autorité du côté éducatif du gouvernement, le prieur ou le permettre, et l'autorité du côté enseignement. Il y a deux types d'autorité, et c'est très important de voir ces deux types d'autorité, parce que ça fait deux types d'obéissance tout à fait différents. On n'obéit pas de la même façon à celui qui a l'autorité par rapport au gouvernement, donc qui regarde le point de vue éthique, et l'autorité par rapport à celui qui enseigne, qui regarde le point de vue enseignement. L'autorité de l'enseignement repose sur la compétence. L'autorité du gouvernement repose où ? Sur un aspect naturel, le père, qui a pris la responsabilité d'éduquer des enfants plus jeunes que lui. Il peut être moins intelligent que ses enfants, ça arrive. Il y a des enfants qui sont plus intelligents que leur père. Et malgré ça, le père a autorité. Tandis que pour l'enseignement, c'est plus difficile. Il faut au moins que dans la matière où il enseigne, il soit plus compétent. Et s'il n'a pas la compétence dans l'enseignement, il n'est pas admis. Ça, c'est un fait. Et on a raison, du reste. Parce qu'on perd son temps, toi. Oui. Il n'y a que dans la vie religieuse. Dans la vie religieuse, on écoute les cours dans l'obéissance. Alors, autant que possible, on doit aider cette obéissance religieuse en faisant que le professeur soit compétent. C'est autre chose, vous voyez. Alors, ça, c'est un problème fondamental au point de vue de l'obéissance. Et de voir que le point de vue chrétien fait que l'obéissance prend une importance unique. Pour Aristote, l'obéissance, c'est uniquement les enfants et l'épouse. Une fois qu'on a acquis la prudence, on n'a plus besoin d'obéir, sauf l'autorité politique, au point de vue politique, citoyen. Oui. Donc, ça s'est restreint comme obéissance. Et Aristote dit l'obéissance de l'épouse parce qu'elle a plus de peine d'acquérir le sens de sa finalité que l'épouse, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas dire ça. Il faut dire que c'est Aristote. Parce que c'est une question de finalité. Vous obéissez pour acquérir votre finalité, pour être orienté vers la finalité. chrétien, c'est très différent. C'est très très différent. Pourquoi ? Parce que vous avez affaire à une autorité qui est une autorité divine, qui ne repose plus seulement sur un fondement naturel et une compétence, mais qui repose sur le point de vue de l'ordre de la sagesse de Dieu. L'autorité du prêtre, l'autorité du pape, l'autorité de l'évêque, et puis l'autorité religieuse. Donc ça repose sur quelque chose qui dépasse le point de vue humain. Et le religieux comprend que mettre toute sa vie dans l'obéissance, ça peut être très rude pour notre nature humaine, mais ça fait gagner un temps énorme au point de vue de sa sainteté. Parce qu'à la place de faire simplement des actions qui sont bonnes, vous faites des actions bonnes et dans l'obéissance. Donc il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui va plus loin. C'est la grandeur de l'obéissance. Ça vient, ça ne joue pas, ça n'ajoute rien. Mais ça donne une plus-value. L'acte religieux a une plus-value. Puisqu'il fait tout dans l'obéissance, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin. Faisant tout dans l'obéissance, ça une valeur d'amour pour Dieu plus grande. Vous voyez donc que, à cause du mystère du Christ, qui fait tout dans l'obéissance, l'obéissance va prendre en terre chrétienne une importance toute nouvelle. La parole de l'Épître aux Hébreux, tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Et donc, l'obéissance, à ce moment-là, prend une valeur toute nouvelle. Fait que tout est enveloppé de l'autorité religieuse. Et l'autorité religieuse est une autorité divine. Faut pas l'oublier. Puisque c'est l'Église elle-même, c'est le pape, qui ratifie l'autorité d'un prieur. C'est plus l'autorité humaine. C'est une autorité qui dépend directement du Christ. Et ça change tout, ça. Celui qui ne veut pas comprendre ce point de vue-là ne comprend pas ce que c'est que la vie religieuse. La vie religieuse repose sur une autorité divine et non pas sur une autorité humaine. Mais l'autorité des parents par le sacrement a quelque chose de divin. Par le sacrement de mariage. Ça, c'est sûr. Le père de famille et la mère de famille ont une autorité transformée, une autorité sur leurs enfants, transformée par le point de vue du sacrement de mariage. Mais dans la vie religieuse, l'autorité religieuse du prieur, du Père Maître, est une autorité ratifiée par l'Église, sanctionnée par l'Église, et donc une autorité religieuse nous met dans un état d'obéissance à nos supérieurs de façon très particulière. Et au plan chrétien, d'une façon très, très forte. Jésus, en disant « Tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté », Jésus nous indique par là ce qui caractérise l'autorité chrétienne et l'autorité d'extension et d'intensité. D'extension, c'est que toute la vie humaine est prise sous le poids de l'obéissance. Et intensité, c'est que l'autorité est rattachée, l'autorité religieuse est rattachée aux béatitudes évangéliques. Donc au point de vue intensité, elle est rattachée directement à la charité, à l'espérance et à la foi. Ça qui est très très particulier, c'est que par le vœu d'obéissance, c'est toute l'exécution de notre vie morale et de notre vie théologale qui se trouve sous le point de vue direct de la vertu d'obéissance. Alors, c'est quelque chose de très spécial. Parce que normalement, dans l'obéissance humaine, pour la vertu d'obéissance, tout acte d'obéissance présuppose le point de vue de la prudence. Tout acte. Vous obéissez à une autorité légitime. Donc, compétence ou autorité naturelle. en conscience chrétienne ce que votre supérieur vous dit vous semble contraire à votre conscience. J'ai vu le cas plusieurs fois et on me demandait conseil. Je dis pas les détails parce que c'est des choses, les gens vivent encore là. C'est pas ici, c'est évident. C'est pas dans la vie religieuse, mais c'était des prêtres et l'autorité de Rome. Et l'autorité de Rome où on pensait que l'autorité de la congrégation des religieux ne devait pas exercer son autorité sur ce point parce que c'était des laïcs sous l'autorité d'un prêtre, c'était pas des religieux. Et quand on reçoit de Rome un ordre impératif de faire ceci, ceci, on dit ah, pardon, vous n'avez pas d'autorité sur moi, je ne suis pas un religieux, oubliant que s'il y a l'autorité ecclésiastique, on relève de la congrégation des religieux. C'est très curieux, ça. Alors, on m'avait demandé conseil. Moi, j'avais répondu, personnellement, en tant que religieux, j'obéirais. Et puis, après, puisque c'est pas nécessairement quelque chose qui serait dangereux, j'obéirais, c'est pas quelque chose qui serait contraire hein, au droit naturel, c'est pas. Si on vous demande d'aller tuer quelqu'un la nuit, ben évidemment, vous avez le droit de dire non. C'est pas. C'est quelque chose qui. Mais là, c'était quelque chose qui ne faisait de tort à personne. Mais seulement vous obligez de vous soumettre. J'avais dit, en tant que religieux, j'obéirais. Et je viendrai ensuite soumettre mon cas de conscience. Ou je soumettrai mon cas de conscience à mon directeur spirituel. Vous, si on est dans la vie religieuse et que le prieur demande quelque chose qui vous semble anormal, encore une fois, sans gravité, au point de vue faute, j'obéirai et puis après je viendrai. Ça me semble plus fraternel, plus vrai. Attendez, il faut faire attention, hein. L'aspect fraternel est capital en vie religieuse. Briser la charité fraternelle, c'est plus grave. Désobéissance. Puisque la vie religieuse fait une famille et les liens de charité fraternelle entre nous sont plus forts que tout. Donc on doit faire grande attention de ne pas briser des liens de charité fraternelle. Ce serait trop grave. Quand on est obligé d'intervenir, bah très bien, on est obligé d'intervenir. Parce que si on ne peut pas faire tout le temps miséricorde et de temps en temps, il y a le point de vue de la justice. Mais il faut être très très attentif. Le point de vue de la justice est soumis à la miséricorde et soumis à la charité fraternelle. La justice arrive en troisième lieu. Charité fraternelle, miséricorde, justice. Point de vue chrétien. Et au point de vue religieux, a fortiori. Et j'avais dit, j'obéirai, puis après je ferai. Puis pratiquement, c'était des prêtres. Ils vont dire, ah oui, mais ça c'est en tant que religieux que vous dites ça. Nous ne sommes pas religieux. C'est évangélique. pas sur le droit canon. C'est un fait. Le droit canon rappelle le point de vue de la justice. Et c'est très important. C'est très important de savoir le point de vue de la justice. Mais on ne vit pas au niveau du droit canon. On vit au niveau de la charité fraternelle. Point de vue de l'évangile. L'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard du prochain. Le droit canon est là pour indiquer les limites. Comme disait le père Suarez, général dominicain qui était très fort en droit canon. Très très fort en droit canon. Quand il était venu à Fribourg faire une petite visite amicale, je le connaissais un peu alors. J'ai pu le voir personnellement. Et on a parlé de droit canon. Alors il m'a dit, oui, le droit canon est au service toujours de la personne. Toujours au service de la personne. Pour maintenir les droits de la personne. Mais au-delà des droits de la personne, il y a la charité fraternelle. C'est sûr. Et je crois que c'était très juste ce qu'il disait. Et c'était intéressant parce que c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement. Il était un grand avocat à la Rote. Et en tant que grand avocat à la Rote, il connaissait son droit canon sur le pouce des doigts, si j'ose dire. Et il avait la réputation que chaque fois qu'on lui confiait une cause matrimoniale à la Rote, il gagnait tout le temps. Je sais pas comment il faisait, mais il gagnait tout le temps. Et c'est très beau de voir que le droit canon est au service de l'autonomie, de la liberté de la personne, des droits de la personne. Mais faisons attention, dans certains cas, nous devons réclamer les droits de la personne quand on est coincé. Et on ne vit pas à ce niveau-là, surtout dans la vie religieuse. Puisque dans la vie religieuse, on vit dans une famille. Et c'est la charité fraternelle qui doit tout commander. La charité fraternelle, les uns par rapport aux autres. Et au niveau communautaire. De sorte que c'est toujours très délicat quand un supérieur vous demande quelque chose d'aller contre avant d'obéir. Je crois que très souvent on doit obéir et on demande et on vient ensuite dire il y a peut-être une exagération. Parce que ne pas obéir, c'est faire porter son jugement propre avant celui du supérieur. Qui peut se tromper, hein. Il peut toujours se tromper. C'est évident. Mais les liens de charité fraternelle l'emportent. Ils sont plus grands et plus divins. Et voyez, c'est là où on voit très bien que l'obéissance n'est pas l'absolu, mais l'obéissance dépend de la charité fraternelle qui, elle, est un absolu. La charité fraternelle est un absolu. On sera jugé sur la charité, avant tout et en premier lieu. Et tous nos actes d'obéissance doivent toujours être dans ce sens d'intensifier les liens de charité fraternelle. croix de chaque religieux ne sont pas l'absolu. L'absolu, c'est l'amour qu'on porte pour eux. Or, la charité fraternelle, comme charité fraternelle, dépasse tout. Ce sont des liens d'amour. Et non pas des liens qui sont subordonnés. Les liens de charité fraternelle sont au-dessus.
Attention, c'est pour ça que l'Église n'aime pas le vœu.
désobéissance privée, indépendamment de constitution, qui serait d'obéir ou de cadaver à tous ceux qu'on a choisis comme autorité. L'Église n'aime pas ça. L'Église veut l'obéissance à travers des constitutions. Étant donné le danger de l'orgueil de l'homme. Vous voyez que ce domaine de l'obéissance est très complexe et très simple. Quand il s'agit d'obéir à l'Esprit Saint, c'est très simple. Il faut d'abord être sûr que c'est l'obéissance, que c'est l'Esprit Saint à ce point de vue-là. Ça fait déjà une petite complication. Autrement, on obéit à l'Esprit Saint pleinement, totalement. Si vous savez tout demander, mais vous êtes sûr que c'est l'Esprit Saint. Parce que vous n'avez pas le droit de vous livrer pieds et mains liés à un supérieur. Disant, je t'aime tellement, je sais tellement que tu es un saint, que je ne veux faire que ta volonté. Je ne dirais pas du tout la volonté de l'Esprit Saint, la volonté du Christ, pas ma volonté. dans ce sens-là, étant donné qu'une œuvre est toujours quelque chose de lourd à porter et qui risque d'enlever le point de vue de la liberté du contemplatif, liberté intérieure du contemplatif. Et il y a donc un moment, vous voyez, qui n'est pas commode à préciser, parce qu'on s'attache toujours un peu à une œuvre. Il y a un moment où on se dit non, il faut laisser. C'est un acte d'obéissance. Alors, si vous avez des difficultés, des questions trop personnelles, ben, il ne faut pas les poser en public. Les questions du reste, je le verrai tout de suite. Mais des questions autres, il faut préciser, parce que c'est le dernier cours que je fais sur l'obéissance, sauf si des questions. Parce que c'est tellement important dans notre vie. Et puis, pour donner conseil aux autres. Parce que quelquefois, on est dans des positions qui sont très difficiles et très délicates. Il faut essayer.